sur nos plateformes numériques Facebook, YouTube, Twitter et sur le site web www.voafrique.com.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sporama, votre émission hebdomadaire qui parle du sport sur la voie de l'Amérique. Ce soir, nous allons parler des qualifications pour la CAN des moins de 20 ans. Porto Novo accueille le tournoi de la zone B de l'UFOA. On connaît les qualifiés du tour préliminaire des interclubs de la CAF. Et enfin, l'instance qui gère le foot en Afrique organise sa dernière réunion de l'année au Caire. La première du Constant Oumari en tant que président intérimaire de l'institution. Et pour parler de tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants. En direct de Columbus dans l'Ohio, nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Valdo Simbo Yamba nous rejoint depuis Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosuro. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
Bienvenue à tous. Le tournoi qualificatif zonal pour la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans, Mauritanie 2021, se poursuit sur le continent après la zone COSAFA et celle de l'UEFOA A. C'est au tour de la zone B, UEFOA, de dégager ces deux qualifiés. Et tout commence à Porto Novo pour deux semaines de compétition pour le match inaugural. Les écureuils juniors ont été battus par leur homologue du Niger 1-0. Un mauvais départ pour les poulains de Mathias Deguéron. Alors, Lawadine Kosuro, ça se complique pour les Béninois qui auront deux finales lors des deux prochaines journées.
C'est déjà compliqué de perdre un match d'ouverture, surtout qu'on joue à domicile, et ça va se corser davantage pour eux, mais il y a quand même un peu d'espoir qu'il faut garder par rapport à cette équipe. Le match entre le Togo et le Burkina
s'est soldé par un nul, un but partout.
Un but partout. Donc, les Béninois en zéro point, c'est vrai.
Mais ont l'occasion de se rattraper
très rapidement. Mais il faudra que Mathias Deguéron, le coach, puisse revoir peut-être un peu son style de jeu afin de produire quelque chose d'assez intéressant.
Surtout Chabel Gomez, la star qui était vraiment attendue, n'a pas convaincu. C'était une grande déception.
Non, la grosse déception, c'est d'abord lui. Mais il y a eu que le coach n'a pas suffisamment fait une bonne lecture du jeu pendant le match. Résultat, au final, le Bénin a perdu les 3 points. Donc il est important pour les Béninois de se reprendre très rapidement et de faire ce qui est nécessaire pour permettre à cette équipe de se qualifier au moins pour cette CAN-là.
Et là, ouais, la prochaine journée dans le groupe A, demain, mardi justement, le Bénin jouera le Togo et le Niger le Burkina Faso. Amine Birouk, on vient vers vous. Après l'Afrique de l'Ouest, c'est au tour de l'Afrique du Nord, la zone UNAF, et ça va se jouer en Tunisie du 15 au 27 décembre 2020.
Et ce sera donc un tournoi interzone avec l'équipe de Tunisie, pays organisateur, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et le Maroc. C'est dans le cadre de la zone UNAF. Un seul qualifié. Je pense que c'est une bonne initiative de la part de la Confédération africaine de football de pouvoir déterminer les qualifiés par zone, de façon à pouvoir avoir le maximum de représentants avec une variété de pays dans ces catégories U17 et U20. Ça devrait augmenter les chances du Maroc en particulier, qui va miser sur un arsenal de joueurs expatriés en plus des joueurs locaux. Un Maroc qui vise une qualification comme c'était le cas lors de la CAN U17. C'est la même génération. Elle avait dominé son groupe l'année dernière lorsqu'il y avait la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Aujourd'hui, l'Égypte vient s'ajouter au nombre de pays participants et on verra dans quelle mesure ces pays vont pouvoir concurrencer le grand favori, le Maroc.
Merci Amine. Sont déjà qualifiés pour cette CAN qui aura lieu en Mauritanie en 2021, l'Ouganda et la Tanzanie dans la zone COSAFA et la Gambie pour la zone A de l'UFOA. <t'-> Les premiers qualifiés des interclubs de la CAF sont connus à l'issue du premier tour retour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Et grosse déception pour le Bénin, Laval. Les Buffs du Bogou n'ont pas pu effectuer leur déplacement en Algérie pour affronter le Mondial d'Alger. Le club béninois risque gros.
Oui, Élysée, on doit pouvoir véritablement sanctionner de façon exemplaire le club béninois. On ne peut pas concevoir qu'on s'engage pour une compétition et qu'on vienne annoncer des raisons fallacieuses pour ne pas faire un déplacement.
Mais il n'y a pas un vol commercial en direction d'Alger.
Vol commercial. Les Algériens avaient proposé aux Béninois de les faire déplacer et de leur offrir l'hospitalité, qu'on puisse jouer tous les matchs là-bas à Alger. Ils ont refusé. Je croyais qu'ils avaient les éléments, les moyens pour faire le déplacement. Moi, je dis, le club a failli, certes, mais la fédération et le ministère devraient quand même... Écoutez, nous sommes dans un pays.
On a vu les écureuils, on leur a affrété un vol spécial.
Et les écureuils ont poussé l'hospitalité jusqu'à embarquer dans leur vol spécial les OTAN en son temps. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver une formule pour aider l'équipe des Buffles à faire le déplacement? Même si c'est un déplacement périlleux, il fallait le faire. C'est pas sérieux, c'est pas du tout sérieux pour ce cas précis.
En attendant, Laval, le second représentant béninois entre en compétition au second tour en Coupe de la CAF. Esaïe sera opposé au Marocain du TAS, club de deuxième division.
Oui, Élysée, on espère que Esaïe ne va pas vivre la même chose que les Buffles, ne pas pouvoir se déplacer.
Tellement ils vont prendre leur disposition.
Ils ont intérêt. Et si aujourd'hui, on ne prend pas les dispositions, l'exemple des Buffles, c'est déjà là. Donc, les gens doivent prendre les dispositions pour qu'on ne vive pas la même situation avec Esaïe. Mais le plus important, Esaïe est un club qui a toujours surpris. On se rappelle de sa campagne de l'année dernière, même si elle n'a pas pu sortir du groupe. Au moins, on a senti que pour la première fois depuis 1987, je crois, avec l'épopée des Dragons.
C'est son demi-finale de la Coupe de la CAF.
On espère que Esaïe va fondamentalement faire ce qui est nécessaire pour mieux se porter et révéler le foot béninois.
Amine, la première campagne africaine de l'un des clubs populaires de Casablanca a été une réussite. Au second tour, ce sera Esaïe, un club béninois connu du public sportif marocain.
Et le TAS n'aura même pas besoin de disputer le match retour puisque la formation gambienne de Gamtel a préféré déclarer forfait après sa défaite lors du match aller. L'annonce a été faite aux dirigeants du club de deuxième division casablancais qui avait réussi à l'emporter au match aller sur le score d'un but à zéro. Donc l'équipe marocaine va devoir maintenant se préparer pour sa deuxième sortie face à ESAE, l'équipe béninoise, un adversaire que le public marocain avait appris à découvrir lors de la phase de groupe de la Coupe de la CAF la saison dernière, puisqu'ils étaient dans le même groupe que la formation tenant du titre la Renaissance sportive de Berkane. A priori, les Béninois bénéficient du capital expérience par rapport à une formation qui se trouve en deuxième division au Maroc, qui s'est renouvelé à 90% puisque les gagnants de la Coupe du Trône sont partis quérir fortune sous d'autres cieux. Ce sera une confrontation intéressante.
À Medine Si, le Sénégal aura deux représentants au second tour de ces deux compétitions. C'est inédit.
Oui, Élysée, le Djaraf qui avait battu quand même le Canopiar à Dakar sur le score de 3-1 a ramené un bon nul, 0-0. Tenguet s'est défait des Gambiens sur le score de 2-0 grâce à Valérie Paul Bassen et Elhadj Ousmane Fall. Mais sachez, Élysée, que ce n'est pas inédit car le Sénégal réussit souvent à placer deux formations lors des tours préliminaires. La dernière en date, c'est en 2018-2019 avec Djaraf et Génération Foot. Donc le problème des clubs sénégalais, c'est de se qualifier pour les phases de poule car seul la Gendarme de Dakar avait réussi à se qualifier lors des phases de poule. La dernière en date remonte en 2004 avec la Gendarme de Dakar Élysée.
Valdo, une fois encore, c'est une déception pour Maniema Union. Le leader actuel de la Lina Foot n'a pu franchir une fois encore le premier tour.
Et c'est après séance des tirs au but, malheureusement pour le club de la RDC qui a réussi le plus dur, revenant à la hauteur de son adversaire qu'il avait battu à l'aller à Kindou sur le score de 2-0. La défaite du match aller y est pour beaucoup, hein, dans cette élimination d'un des représentants de la RDC. aux interclubs de la CAF dès les préliminaires. Un but peu avant la pause, un autre deux minutes après les retours des vestiaires. Il n'y avait pas mieux pour Mané Maignan de bien faire les choses. Malheureusement, les scores n'ont plus évolué et c'est à la séance des tirs au but que les deux clubs ont tiré les choses au clair. Trois tirs pour les locaux de Bloemfontein et deux pour Mané Maignan. La messe est dite. Une fois de plus, c'est à ces stades de la compétition que le club congolais s'arrête de nouveau. Plus de coupe de confédération, moins encore la première place du championnat de la RDC qui revient désormais au tout-puissant Gladbach Mazembe. Même nombre de points, soit 25, mais avec un match à moins. Mané Maignan a perdu gros ce week-end.
On reste avec Ouvaldo. La RDC comptera désormais sur sept ténors. Le TP Mazembe et la SV Club en Ligue des Champions et le Daring Club Motéba Pembe en Coupe de la CAF.
Tout à fait, Élisée, les trois qui, la saison dernière, avaient accédé en phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, mais également de la Coupe de la Confédération pour les DSMP Mazembe, qui vient de prendre pour la première fois les commandes du championnat depuis le début de cette saison. Psychologiquement, cette première place a fait du bien à l'ensemble de l'effectif à l'approche de leur entrée en Ligue des Champions. Mazembe, qui a toujours été la locomotive congolaise aux interclubs de la CAF. La RDC pourra également compter sur l'association sportive Victoria Club, troisième au classement du championnat national qui ne donne pas assez de garanties avec sa ligne offensive, loin des attentes, mais efficace derrière avec son jeune gardien camerounais Simon Omosola. Plus que seul représentant de la RDC en Coupe de la Confédération, les DSMP semblent avoir mis à côté ses ennuis administratifs au niveau de la FIFA. Avec un fonds de jeu satisfaisant, le club de la capitale congolaise reste malheureusement dépendant de son buteur Dark Kabangu, auteur de 6 buts en championnat.
On revient vers vous à Médine. Ça va être encore plus difficile pour Tenguet et Diarafo, qui joueront respectivement les Marocains du Raja de Casablanca et les Ivoiriens du FC San Pedro au second tour.
Tout à fait, Élisée. Le prochain tour sera plus difficile pour les deux clubs sénégalais. Il faut dire que c'est deux affiches alléchantes, hein, mais je pense que le Diarafo a plus de chances que Tenguet FC. Tenguet FC qui fera face à une très grosse cylindrée, le Raja de Casablanca, qui a plusieurs titres africains. Je pense que Tenguet ressemble à un néant face à ce Grand Afrique, parce que Tenguet est un néophyte, mais on est en football et tout est possible. Pour le Diarafo, ce sera du 50-50, hein, parce que San Pedro, c'est vrai que c'est un bon club ivoirien, mais le Diarafo commence à avoir de l'expérience sur la scène africaine. Donc il faut dire que le Diarafo partira un peu avec la faveur des pronostics, mais pour Tenguet, ce sera vraiment un exploit pour une qualification face au Raja de Casablanca. Élisée.
Autre qualification, celle des Nigérians d'Enimba et des Ivoiriens du Racing Club d'Abidjan. L'aventure continue aussi pour les Tanzaniens de Simba et les Sud-Africains du Kaiser Chiefs, tombeurs des Camerounais de P2VD Babenda en Coupe de la CAF. Coton Sport de Garoua sera au second tour, tout comme Arab Contrator qui a laminé 9-1 Arta Sola Club d'Alessandro Song. Qualification aussi des Burkinabés de Salitas et des Nigériens de la Gendarmerie Nationale. Le prochain tour aura lieu du 18 au 20 décembre prochain. Match retour une semaine plus tard. Après le premier tour préliminaire de cette compétition des clubs, le comité exécutif de la CAF sera en réunion extraordinaire au Caire le 10 décembre prochain. Valdo, ce sera la première assise officielle dirigée par Constant Omari.
Élisée, Omari connaît bien les fonctionnements de la CAF. Mais là, ça sera une sorte d'intronisation, hein, du fait d'intérim au poste des présidents qu'il assume à l'absence d'Ahmad Ahmad, suspendu 5 ans par la FIFA. Ça sera l'occasion de tirer au clair certaines situations au sein de cette instance et s'est fixé des orientations sur l'avenir de la CAF, notamment au sujet des prochaines élections. Omar est déjà accueilli par ces fake news, hein, qui a alimenté l'actualité où on évoque encore et toujours un problème d'argent en perspective de ces élections. Il sera peut-être temps de travailler sur la crédibilité de la CAF et de ses dirigeants quand on sait qu'à l'approche de ces élections avec cette suspension d'Ahmad Ahmad, beaucoup de choses peuvent se passer. Ainsi, les présidents à l'intérim de la CAF a du pain sur la planche pour ainsi tenter de marquer de son empreinte. C'est peu de temps qu'il a géré cette CAF qui est secouée par ces problèmes qui ont conduit les Malgaches à la sanction.
Amine, parmi les points à l'ordre du jour figure celui du bilan des compétitions de la CAF, notamment les visites d'inspection par rapport au CHAN Cameroun 2021, la CAN en Côte d'Ivoire en 2023, le tournoi qualificatif des CAN U17 et U20 et des différentes compétitions féminines.
C'est un ordre du jour somme toute classique. Il intervient dans le cadre des préoccupations de la CAF pour ses multiples compétitions. On ne va pas éluder l'obstacle Chan. Il y a une compétition qui doit avoir lieu en janvier prochain, à partir du 16 jusqu'au 7 février. Il va falloir que les stades soient prêts, que les infrastructures soient fin prêtes pour accueillir les 16 pays participants. Pour ce qui est de la CAN en Côte d'Ivoire, rappelez-vous des péripéties de l'organisation de la CAN au Cameroun en 2019. Donc il n'est pas question de subir les mêmes mésaventures. Et puis, il y a une priorité accordée aux compétitions féminines et aux compétitions des jeunes. Aujourd'hui, la Confédération africaine est un tournant important de son histoire. Elle doit continuer sans son président en exercice, qui est suspendu de toute activité dans les 5 prochaines années. Il y a un processus électoral qui va devoir être entamé à partir du 12 janvier prochain. Et pendant ce temps-là, l'institution doit continuer à tourner, les compétitions doivent continuer à se dérouler.
À Médine, il sera aussi question de la réorganisation de l'administration de l'essence, surtout la confirmation de la nomination du directeur de la communication, le Camerounais Alessandre Siewe.
Tout à fait, Élisée. Mais je pense qu'ils vont aussi profiter de cette rencontre pour parler du cas Amad Amad. Comme vous le savez, cette réunion arrive, c'est la première réunion qui arrive après la suspension d'Amad Amad. Donc, ils vont essayer de tirer cette affaire au clair, parce qu'Amad Amad, c'est la personne morale, le patron de la Confédération africaine de football. Les responsables du football vont aussi essayer de dresser le bilan de la défaite de saison qui est la plus longue de l'histoire. Donc ils vont essayer de tirer un peu le bilan de ces compétitions et se projeter aussi sur les compétitions de cette année qui ont été entamées depuis le week-end dernier. Donc c'est une réunion très importante, Élisée, et je pense que les sujets ne manquent pas et les responsables du football vont traiter tout cela. Élisée.
Justement, Lawal, l'Assemblée générale élective de mars 2021 sera aussi d'actualité. On est dans la dernière ligne droite.
Oui, Élisée, la dernière ligne droite, c'est connu avec tout ce qui se passe au niveau de la CAF. On espère que cette assemblée va permettre aux uns aux autres de mieux réfléchir et de savoir désormais ce qu'il faut faire pour rehausser le niveau du foot africain et prendre les décisions les plus idoines pour que on ne continue pas de parler de corruption, de manque d'éthique et tout au sein de cette instance.
C'est ça qui marque aujourd'hui la CAF.
Toutes les instances dirigeantes du sport à travers le monde connaissent des moments de faiblesse. On a vu au niveau de l'athlétisme avec la condamnation
de Lamine Diack.
Oui. Et on a vu au niveau du foot aussi, au niveau de la FIFA, de l'UEFA et tout le reste. Donc ce n'est pas nouveau. Mais il faudra que cette assemblée puisse permettre aux uns aux autres de savoir ce qu'il faut, le type de dirigeant qu'il faut désormais pour le foot afin qu'on cesse de nous déblatérer un certain nombre de choses qui véritablement ne font pas honneur à tous ceux qui sont appelés à gérer le sport de façon globale.
Alors, en ce qui concerne l'ascension d'Amad Amad, seul le malgache a été suspendu, mais vu les charges et selon les tests de la FIFA, il ne devrait pas être seul.
Élisée, c'est regrettable que ça se passe comme ça. Quand on a voulu sanctionner au niveau de la FIFA, on a épinglé juste cette blatter. Quand on a voulu sanctionner au niveau de l'UEFA, c'est Platini seul qui a été suspendu. À la CAF, c'est Amad Amad seul. Donc, c'est peut-être la règle au sein de la FIFA qui véritablement ne respecte peut-être pas ses propres lois, parce que le communiqué est clair, ce qui est dit est clair, que tous ceux qui ont trempé dans ce qui doit être appelé comme affaire Amad Amad, tout cela devrait être suspendu, tout comme Amad Amad. Malheureusement, le Mauritanien était présent, voilà, il est candidat, il n'a pas été suspendu, il n'a pas été inquiété, et là ça donne raison Amad Amad, qui estime que la FIFA est en train d'outrepasser peut-être ses prérogatives et qu'il faut que la CAF puisse se libérer du joug de la FIFA. Mais on ne peut pas concevoir que je sois, c'est humain, qu'il soit seul à payer pour une faute éthique qu'il aura commise lui-même, mais que d'autres ne puissent pas être inquiétés alors qu'ils sont tous coupables.
Amine Birouko, comme l'a dit Lawal, tous ceux qui ont participé au petit pèlerinage à la Mecque devraient connaître le même sort que l'ancien président de la CAF, car la disposition du code éthique sanctionne autant celui qui offre le cadeau que celui qui le reçoit.
Vraisemblablement, il y aura d'autres sanctions. Je ne crois pas que la FIFA va s'arrêter en si bon chemin. Ici, Ahmed Ahmed a écopé de ses 5 ans d'interdiction de toute activité liée au football pour un chef d'accusation ou des chefs d'accusation bien fournis, et notamment la fameuse affaire du pèlerinage à la Mecque. Je suppose que tous ceux qui l'ont accompagné pendant ce voyage se verront notifiés soit des avertissements, soit des blâmes, soit des suspensions. Il va juste falloir rappeler qu'il y a un code éthique qu'il faut respecter à la lettre. J'espère juste que cela ne concernera pas seulement les représentants du football africain et que bien d'autres affaires qui ont été révélées lors des dernières années seront suivies avec la même rigueur, que ce soit dans la zone CONMEBOL ou la zone CONCACAF ou même au niveau de la FIFA. Rappelez-vous que le président est également poursuivi par la justice suisse pour avoir utilisé le jet privé de la FIFA à des fins personnelles. Il est vrai que ces mouvements concernant le football africain font très mal à la réputation du continent.
Valdo, pourrait-on dire que la FIFA a eu affaire du deux poids deux mesures au regard de l'article 20 de son code éthique ?
Mais dans tous les cas, Élysée, les grands perdants, c'est les Malgaches qui, disons-les, même si on sanctionnait ceux qui lui ont offert ces cadeaux, il serait toujours frappé des 5 années de suspension. S'il en restait ainsi, c'est vraiment du deux poids, deux mesures. Et là, certains avertis pensent que l'actuel président de la FIFA aurait son candidat pour succéder à Ahmad Ahmad, d'où cette sanction pour l'écarter de la course malgré certaines faiblesses des gestions qui collent à la peau du Malgache. Et son appel au TAS risque de ne pas être répondu avant la tenue des élections. Cette élection à la CAF serait au finish la résultante d'un bras de fer entre la CAF d'Ahmad Ahmad et le choix du président de la FIFA. La FIFA qui, cette fois, veut travailler clairement avec la CAF, mais avec un président qu'elle aura choisi pour ainsi faire appliquer à la lettre sa politique et éviter ainsi des essais et erreurs constatés ça et là.
Amédine, au regard de tout ceci, la candidature du Mauritanien devait être annulée le 10 janvier prochain, puisqu'il était lui aussi de la délégation.
C'est vrai, Élysée, je pense sincèrement que d'autres sanctions vont tomber, car Ahmad Ahmad ne sera pas le seul à être sanctionné, car beaucoup de membres de la Confédération africaine de football ont reçu des cadeaux. C'est un secret de polichinelle, vous l'avez souligné. Il y a eu l'histoire du petit pèlerinage à la Mecque, et nous savons que le président de la Fédération mauritanienne de football fait partie du groupe qui avait effectué ce petit pèlerinage à la Mecque. Mais de là à dire que sa candidature doit être annulée, bon, je pense qu'il faut encore attendre, hein, parce que je pense qu'au niveau quand même de la FIFA, des enquêtes sont en train d'être menées et on verra si la candidature du président de la Fédération mauritanienne sera annulée ou pas. Élysée.
Lawal, finalement, Ahmad Ahmad a raison au vu de ce qu'il a énuméré dans son recours au TAS.
Non, je ne vais pas dire qu'Ahmad Ahmad a raison ou il a tort. Est-ce que ce qu'on lui reproche, est-ce que c'est pas avéré? Donc, s'il oublie qu'il doit respecter une certaine éthique et qu'il est épinglé, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Maintenant, au demeurant, j'estime que la FIFA aurait pu, avant de prendre sa décision de sanction, Ahmad Ahmad aurait pu voir les contours. Parce que Ahmad Ahmad n'a pas été seul.
Si, c'est bon.
Déjà était autour de lui. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est lui seul qui est impliqué, qu'on le sanctionne seul, ou les autres n'ont pas été suffisamment impliqués?
Il ne peut pas être le seul impliqué, puisqu'il y a le Mauritanien qui a fait le voyage avec lui.
Le Mauritanien a fait le voyage, c'est peut-être qu'il n'a pas été contacté comme on aurait contacté Ahmad Ahmad. Peut-être que le Mauritanien, au regard de ce que la FIFA a comme élément, n'est pas autant coupable que Ahmad Ahmad. Mais dans ce cas précis, on aurait pu, c'est mon humble avis, on aurait pu demander au Mauritanien de retirer sa candidature tout simplement, parce que là, Ahmad Ahmad a énuméré des raisons pour son recours. On attend de voir ce qui va se passer. Mais fondamentalement, il y a quelque part un goût d'inachevé par rapport à ce que la FIFA a pris comme décision.
C'est un feuilleton qui risque de ne pas se terminer de sitôt. Merci Lawal.
Olivier, c'est moi.
Sporama, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et surtout à vous qui l'avez écouté. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.